vue d'ensemble de l'actualité.
Si vous ne sentez pas bien, ben je veux dire aux Québécois, il n'y a pas de gêne. C'est aussi important que la santé physique. Donc, n'hésitez pas. C'est presque normal dans la situation qu'on vit actuellement qu'il y ait plus de personnes qui aient des problèmes, qui ont des problèmes de santé mentale.
Trêveville PM.
Premier ministre François Legault, un peu plus tôt cette semaine, je m'en vais rejoindre sans plus tarder Rosemarie Charest, psychologue, conférencière. Bonjour Rosemarie.
Bonjour.
Vous continuez à faire de la consultation, évidemment à distance. Mettons les deux ou trois peurs, inquiétudes, anxiété que vous remarquez le plus. Là, c'est-tu la peur de mourir? C'est-tu la peur d'une espèce de catastrophe? Est-ce que c'est l'insécurité? C'est quoi?
Écoutez, aller jusqu'à cette semaine, les peurs financières étaient vraiment ce qui prenait le dessus dans ce que moi j'observais, non seulement en consultation, mais dans tout ce que j'entendais là, partout. Et là, ce qui est vraiment les craintes, c'est beaucoup les membres de la famille qui soit sont à risque, soit ne prennent pas les mesures de protection qu'ils devaient prendre. Et là, il commence à y avoir des tensions familiales autour de ça. Mais ça, moi, ça m'étonne pas. Dans une période de confinement, là, on a deux facteurs. On a un facteur de stress plus élevé. Mm-hmm. Alors, on sait que quand on est plus stressé, on n'est pas à notre meilleur. On n'est pas à notre meilleur dans nos relations interpersonnelles. Mais là, en plus, on est dans une phase de confinement, donc on n'a même pas la distance qui permet de prendre une bouffée d'air, qui permet de se détendre en deux moments de tension interpersonnelle. Et ça, c'est vrai pour mes couples, c'est vrai pour mes familles, c'est vrai pour les relations avec les enfants, avec les adolescents. Donc, c'est l'univers, notre univers intime aussi qui est bouleversé. C'est pas juste l'univers social.
Là, alors vous pouvez nous appeler 790-9850 si vous avez une question pour Rosemarie, OK? Si vous avez une question, ne vous gênez pas pour la poser. Quelle est la meilleure façon, Rosemarie, de traiter avec cette anxiété, cette nervosité, ce stress? Appelle ça comme tu voudras, mais c'est du négatif. Là. On s'entend que c'est du négatif.
Oui, absolument.
Là.
Bon, la première chose, c'est d'accepter qu'on est anxieux. Il y a personne, si quelqu'un me disait actuellement, moi, je suis aussi calme que d'habitude, il n'y a rien qui m'affecte, j'aurais beaucoup de difficulté à le croire, ou je m'inquiéterais d'une des réactions qu'on connaît à l'anxiété, qui est la négation, nier ce qui se passe. Alors, la réalité, c'est que la situation, elle est anxiogène, elle est source de stress pour tout le monde au niveau de la santé, pour certaines personnes beaucoup plus que d'autres, au niveau économique, et pour tout le monde aussi dans la réorganisation de notre vie. Donc oui, c'est source d'anxiété, n'ayez pas peur de le reconnaître. Une fois que vous l'avez reconnu, mm-hmm. quels sont les moyens qui vont vous permettre quand même de vous détendre malgré la situation? Un, occupez-vous de vous physiquement. Essayez de prendre des bonnes respirations, de vous détendre au niveau musculaire, de faire un peu d'exercice, d'aller faire une marche si vous le pouvez, de bien vous nourrir, d'essayer d'avoir un horaire pour les enfants en particulier, avoir une espèce de routine, ça aide énormément. Ensuite, regardez-vous penser. Est-ce que vous êtes en train juste d'imaginer le pire des scénarios? Est-ce que parce que vous avez perdu un peu quand même beaucoup de vos économies, vous pensez que jamais vous allez pouvoir récupérer? Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois que vous toussez, que vous allez en mourir? Est-ce que vous êtes capable de regarder ça puis de dire, ça, là, c'est le pire des scénarios. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres scénarios possibles? Ça va vous aider aussi. Et finalement, au niveau des relations interpersonnelles, faites attention au monde que vous aimez. Acceptez qu'ils ne soient pas à leur meilleur. Prenez un temps pour vous comme individu. Il n'y a pas un couple qui peut résister au fait d'être toujours, toujours, toujours ensemble, particulièrement en moment de stress. Mmh. Puis des fois, on n'a pas une assez grande maison pour s'éloigner, mais des écouteurs, c'est les oreilles faites.
C'est vrai, ça. On s'en va à Jean-Philippe qui nous appelle. Bonjour, Jean-Philippe.
Oui, bonjour, M. Tréville.
On vous écoute, Jean-Philippe.
Ma question, c'est, ça touche un peu ça, mais pas entièrement. C'est juste que moi, je suis diabétique de type 1. Et je travaille encore dans un milieu qui est essentiel, dans le fond. Je suis chauffeur de lift. Puis, mais là, j'ai entendu un cas tantôt qui commençait à avoir des cas en Ontario. Puis le maire d'Ontario disait peut-être qu'il n'était pas sûr de shutdown. Mais c'est à cause que je reçois du stock, moi, d'Ontario. Fait je commence à paniquer un petit peu là-dessus, moi, disons.
Rosemary?
Ben, écoutez, monsieur, moi, je pense que vous êtes... vous avez besoin d'informations pour vous rassurer. Si j'étais à votre place, je prendrais toutes les informations parce que, vous savez, la pire des choses dans ces situations-là, c'est dire « j'ai entendu dire que ». Bon, maintenant, pour ce qui est de votre diabète, j'ai pas la compétence pour répondre à ça, mais vous pourriez en parler avec votre pharmacien, avec votre médecin, si vous avez accès à votre médecin. Mais faites attention, puis ça, c'est un message que j'ai pour tout le monde, faites très attention à ce que vous imaginez qui pourrait arriver. Centrez-vous sur ce que vous savez et informez-vous auprès des personnes qui ont vraiment l'information avant de commencer à vous inquiéter.
Très bon conseil. Merci, Jean-Philippe, pour l'appel. Zulika, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je suis éducatrice dans une garderie.
Oui.
Je parle de mon nom et le nom de toutes mes collègues parce qu'on vient le matin, on travaille, mais on a le stress, on a le trac, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer la journée, qui je vais recevoir, les enfants, des infirmières, des policiers ou les autres là.
Oui.
Puis on travaille, mais on n'est pas là, notre tête n'est pas là. On regarde, est-ce qu'on touche l'enfant, est-ce qu'on ne touche pas, il y a une distance entre nous, les collègues, est-ce qu'on est protégé, nous, pas, on ne parle pas de nous, je comprends. Pas, vous comprenez. Donc, on travaille avec une certaine peur. Je ne sais pas. Moi, je vous parle, j'ai le trac et je sors chez moi. Maintenant, je vais me laver et tout. C'est sûr qu'on fait toute l'hygiène. Mais est-ce que je vais attraper la COVID? Et on a toujours cette idée-là que je vais attraper la COVID. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Alors que on ne vit pas normal, comme d'habitude. Je sais que pour toute la société, oui, je comprends, mais nous aussi, on est dans un risque comme les infirmières.
Vous avez raison.
Mais oui, oui.
Juste avant de laisser Rosemary, je veux juste vous dire, Zulika, d'abord, je suis très content que vous nous appeliez là. Très content parce que je suis certain que vous appelez au nom de beaucoup, beaucoup de collègues qui vivent la même chose.
Oui,
ouais.
Merci beaucoup.
Je suis très content, vraiment, vraiment. Et Rosemary, écoute, ce qu'elle vit, là, Zulika, là, il y a beaucoup, beaucoup d'éducatrices qui le vivent présentement là.
Absolument. Écoutez, c'est clair que c'est un rôle essentiel actuellement, parce qu'on sait à quel point, comment les parents peuvent faire pour aller travailler s'ils ont des enfants. Ils ont absolument besoin de ces personnes-là. Et je suis très contente, effectivement, comme vous le disiez, que madame nous ait appelés, parce que c'est des gens qu'on ne reconnaît pas suffisamment. Puis elle a raison de dire qu'ils sont, bon, pas directement en contact comme les infirmières et les médecins avec les personnes malades, mais il reste quand même qu'ils ont beaucoup de contacts physiques. Hein, ils prennent soin des jeunes enfants, ça force nécessairement. Bon, les mesures d'hygiène sont, si elles sont respectées, elles ont été étudiées, les mesures d'hygiène. Et je comprends, par exemple, que le fait de toujours avoir à penser à ça, en plus de leur travail habituel, ça s'ajoute au travail habituel. J'ose espérer toutefois que les groupes d'enfants sont diminués, que c'est pas le même nombre d'enfants dont ils ont à prendre soin, parce que quand même, c'est une charge supplémentaire d'avoir à penser, à exécuter les procédures d'hygiène, mais aussi, comme disait bien madame, la préoccupation. Donc, j'invite ces personnes-là. Une fois que leur travail est terminé, bon, évidemment, toutes les procédures habituelles, mais faites-vous plaisir. Allez vous détendre. Que des gens autour de vous, s'il y a des gens qui ont autour d'eux, dans leur famille, dans leur groupe d'amis, des éducatrices en garderie, c'est majoritairement des éducatrices, là, prenez soin de ces personnes-là parce qu'elles, elles prennent soin des enfants, de ceux qui prennent soin de nos malades. C'est cette chaîne de solidarité-là qui va nous permettre de nous en sortir. Et j'écoutais votre entrevue tout à l'heure et j'espère qu'on va se ressortir de cette situation-là avec de plus de belles images que d'images horribles de la nature humaine.
Zulika, ça vous va?
Oui, merci beaucoup. En plus, je voulais juste ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Le premier ministre, il a parlé d'augmentation pour les infirmières et tout, mais on ne parle jamais de nous, les éducatrices.
Ben là,
ça, c'est un message pour le service béni, s'il vous plaît.
Vous venez d'en parler, Sulika. Vous venez de faire le message. Merci.
Merci pour votre appel et bravo pour votre travail.
Absolument, absolument. Bravo. Rosemary, on s'en va à la pause. Reste avec nous. On va prendre d'autres appels au retour. De retour avec Rosemary Charret, psychologue et conférencière. J'ai un petit peu de place sur les lignes, là, si vous voulez. Ça fait un petit bout que vous voulez vous adresser à une psychologue. Soyez pas gênés, là. C'est normal ce qu'on vit. Puis si vous avez une question, probablement qu'il y en a beaucoup d'autres qui aimeraient la poser aussi. Alors ayez le courage peut-être de d'appeler 790-9850. Lancez-vous. Là, j'ai quelqu'un qui m'écrit. Suzanne, elle dit « Ma mère de 99 ans est dans un CHSLD. Elle a des symptômes de la COVID. Elle est lucide maintenant comme elle l'était à 50 ans. Qu'est-ce que je peux lui dire pour l'encourager? Comment lui parler? » demande Suzanne. Rosemary.
Ben, premièrement, lui parler, c'est déjà quelque chose. C'est effectivement une situation parce que j'imagine en temps ordinaire, vous iriez la voir. Là, vous ne pouvez pas aller la voir. Moi, je dirais à votre mère, puis c'est pas simple à expliquer, mais vous savez, on a tellement parlé des personnes âgées que finalement, les personnes âgées, elles sont plus stressées. Fait que je dirais à votre mère que c'est une question de statistique. Il n'y a rien qui dit qu'elle-même, la maladie va progresser au point où elle va en mourir. Si elle a 99 ans, imaginez-vous le nombre de défis qu'elle a relevés dans sa vie.
C'est incroyable.
Peut-être qu'elle va relever celui-là aussi. Exprimez-lui votre amour. Soyez réaliste. La situation est extrêmement difficile. Soyez aussi présente que possible. Peut-être aussi demander à d'autres personnes qui l'aiment de l'appeler pour qu'elle ne fasse pas que penser à la maladie, mais qu'elle pense à autre chose aussi, puis qu'elle soit touchée par le fait d'être entourée.
Oui, c'est un bon argument, Rosemary, je trouve, de dire, imagine-toi, maman, tout ce que tu as déjà traversé, là, tu sais bien que tu vas réussir à traverser celle-là aussi.
On ne peut pas le garantir, mais on peut garantir qu'elle a une force pour traverser les choses.
Voilà, voilà. Patrick, bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Allez-y, on vous écoute.
Moi, je veux juste amener peut-être deux petits points rapides. Moi, je suis le conjoint d'une infirmière qui travaille dans les soins intensifs, surtout dans les corps de travail de soir et de nuit. Puis un des sentiments qui réagit beaucoup, je trouve, c'est le sentiment de la rage. À chaque jour, on regarde la conférence de presse par rapport à les conditions, les quantités de matériel requis. Et il y a beaucoup de choses qui est non dit dans les médias. Quand on parle de manque de matériel, là, c'est rendu qu'on change les protocoles pour diminuer l'utilisation des matériels, des masques et des choses comme ça. Moi, ma conjointe, elle met sa vie en danger à chaque soir qu'elle se présente à l'hôpital. Et entre ce qu'on parle dans les médias et la réalité sur le terrain, moi, je peux la nommer sur l'hôpital de Saint-Jérôme. C'est rendu que qui mettent leur vie en danger pour l'économie de masques. Le manque de matériel, ça fait plus de 2 semaines qu'ils savent qu'ils sont déjà en banque. Fait que quand on parle de 3 à 7 jours, puis on est bon pour 7 jours, c'est un petit peu la désinformation. Je sais que c'est probablement pour pas inquiéter la population, là, mais pour arrêter de parler d'autruche, il y a des milliers de monde qui travaillent dans les milieux hospitaliers, puis eux, ils savent que oui, le manque, il est là.
Patrick.
Ma conjointe, elle est sur le bord de dire qu'elle n'arrivera pas à travailler parce qu'on lui demande de ne pas mettre de masque à une personne qui a été testée, mais qui sont en attente du résultat. Donc, si elle a été testée, puis qu'on attend le résultat du test, mais on lui dit « t'as pas besoin de mettre ton N95 », qu'est-ce qu'on fait si le résultat revient positif? Moi, j'ai 2 enfants qui, de 8 et 10 ans, sont à la maison. On fait quoi quand elle revient?
Oui.
Je comprends que l'anxiété... L'anxiété est élevée pour elle, puis est élevée pour la famille aussi.
C'est sûr.
Ça s'entend dans votre voix, là. J'imagine que pour vous, c'est pas facile. Maintenant, moi, je suis pas en mesure de dire, mais c'est clair que quand on donne une vision générale, ben la vision générale ne tient pas compte de tous les cas spécifiques, mais pour chaque personne qui vit une situation, elle, c'est sa situation qui est difficile à vivre. Donc, je ne peux que compatir avec votre situation, mais en même temps, quand même, vous dire que je suis convaincue que votre conjointe, elle va prendre les mesures, toutes les mesures qui vont la protéger, elle, et qui vont protéger vous et les enfants. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. Il n'y a personne qui peut dire qu'il a tellement pris les mesures que ça n'y arrivera pas. Sauf quelqu'un qui est complètement isolé chez eux et qui ne consomme que ce qui était déjà chez eux il y a un mois. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes qui vivent avec un plus haut risque. Mais il faut faire attention à l'image dramatique qu'on va mourir, là. Il reste que, moi, quand je regarde les chiffres, là, c'est vrai qu'on a un beaucoup plus grand nombre de cas au Québec. Mais quand je regarde le nombre de mortalités, il est inférieur en pourcentage à ce qu'on voit dans d'autres provinces. Fait que je me dis, peut-être je suis trop optimiste, là, mais je me dis les mesures ont l'air quand même de assez bien fonctionner. Je suis convaincue, j'aimerais ça trouver le mot magique qui fasse qu'il n'y aurait plus de problème là, pour votre famille, mais la chose que je peux dire, c'est le rôle que votre conjointe joue est extrêmement important. Elle va se sortir de ça avec une valorisation du rôle qu'elle a joué qui est importante. Et ça, c'est beau à raconter à vos enfants aussi.
Ouais,
ça va les aider à être moins anxieux.
Oui, ça, c'est un bon point. Chantal, bonjour.
Oui, bonjour.
Allez-y, on vous écoute.
D'accord. Donc, moi, ce que je voulais mentionner, c'est que des fois, les endroits où on travaille, ils nous disent pas toute la vérité. Et puis, on a quand même des yeux pour voir, puis on ressent beaucoup les choses, étant donné qu'on travaille déjà avec les gens, soit en maladie ou des personnes âgées. Fait qu'on est quand même conscient de ce qui se passe plus qu'au travers des mots. Et puis, quand on arrive à un moment donné, qu'on est épuisé à force de faire beaucoup d'heures, puis de faire des remplacements, puis de courir tout partout, on veut bien continuer à aider, mais les gens souvent ne prennent pas ça au sérieux, donc la distanciation n'est pas respectée. Ils sortent magasiner puis ils reviennent. Donc nous, on veut les protéger, mais eux, ils nous protègent pas. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit par l'employeur, ben là, on n'a plus droit à des blouses, on n'a plus droit au masque, on n'a plus droit à ci, plus droit à ça. Ben, moi, je me suis choquée. J'ai dit, ben, regarde, si j'ai rien, je m'en vais chez nous. Moi, je veux ça, ça, ça. Ben, là, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Ben, je veux la base au moins. Mais j'étais extrêmement fatiguée. Fait que là, j'ai démissionné parce que j'étais plus capable. Moi, je suis une personne seule. J'ai pas personne pour m'aider si je tombe malade. Moi, j'aide tout le monde, mais qui m'aide? Même mon employeur, il m'a comme laissé tomber quelque part.
Chantal,
que là, à un moment donné,
Chantal, je comprends. Il faut juste laisser un petit peu de temps à Rosemary si on veut avoir une réponse. Tu as 30 secondes, Rosemary.
Ben, écoutez, madame, vous avez fait un choix. Je pense que chaque être humain a droit de choisir à ce moment-là, si lui se sent vraiment menacé. Maintenant, j'en appelle, je pense que les employeurs doivent... Écoutez, quelqu'un qui a une conduite irresponsable, je pense qu'on est plus dans, on est plus à l'étape là, de la discussion, puis de respecter les droits de chacun. Si quelqu'un empiète sur le droit d'un employé de protéger sa santé, je pense que l'employeur devrait intervenir, puis on ne pourrait pas lui reprocher d'avoir été ferme.
Rosemary Charest, psychologue conférencière, merci. Merci à Chantal pour l'appel. Merci à vous d'être là. Patrick Lagacé suit.